ça vaut le détour.
Bonjour et bienvenue à Ça vaut le détour, édition du lundi 2 mai 2016. Bonjour, ici Maxime Despommerleaux, bienvenue à Ça vaut le détour. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Merci de nous accompagner durant l'heure du midi. Nous sommes en direct tous les lundis, mardi et mercredi midi. C'est notre première émission du mois de mai. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour ou @canal_m sur Twitter. Vous pouvez en tout temps nous soumettre des sujets qui vous préoccupent ou réagir aux propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur la Journée internationale de la danse qui était le 29 avril. On découvre la troupe de gigue contemporaine Mai Wen et les orteils pour les danseurs atypiques. Depuis 2009, la chorégraphe Mai Wen Desbois travaille avec des artistes vivant avec divers troubles cognitifs et intellectuels. On lui parle à 12h45 de la mission et des productions de la compagnie. On parle aussi du programme canadien prêt, disponible et capable pour l'employabilité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Au pays, il existe environ 500 000 adultes ayant une déficience intellectuelle ou un TSA en âge de travailler et qui ne peuvent le faire. Une statistique que tente de faire changer plusieurs organismes, dont la CIS, l'Association du Québec pour l'inclusion sociale. Je reçois Mme Émilie Durand-Loup, coordonnatrice provinciale pour le programme volet déficience intellectuelle. On fait le bilan de la 33e édition du défi sportif Altergo qui avait lieu à Montréal du 25 avril jusqu'au 1er mai hier où c'était jour de cérémonie pour les athlètes. On s'entretient avec le directeur du défi, M. Maxime Gagnon. Mais d'abord, on débute l'émission avec un volet recherche et technologie. Le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, l'un des 18 centres de recherche en santé au Québec et dont l'infrastructure est soutenu par le FRQS, le Fonds de recherche en santé du Québec, est un établissement unique qui couvre à la fois les domaines biomédical et psychosocial et met en place des solutions innovantes pour éliminer les obstacles rencontrés par les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Pour nous parler davantage de leur mission et surtout de leur fascinant laboratoire vivant, j'accueille en studio les deux co-directrices scientifiques du Centre de recherche interdisciplinaire dans réadaptation du Montréal métropolitain, les docteurs Bonnie Swain et Eva Kayaya. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Merci.
Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse une brève présentation. Vous êtes directrice scientifique. De nous parler de votre discipline de prédilection. Je commence avec vous, Mme Swain.
Est-ce que vous faites référence à ma formation de base, que je suis physiothérapeute de formation? J'ai gradué de McGill et maintenant, je suis professeure au programme de physiothérapie à l'École de réadaptation, Faculté de médecine, Université de Montréal. Et je suis évidemment chercheure du CRIR à l'installation Lucie Bruneau. Mm-hmm.
Et moi, Eva Kehaya, je suis neurolinguiste et psycholinguiste de formation. J'ai fait mes études à McGill et je suis professeure agrégée à l'École de réadaptation, École de physiothérapie et ergothérapie à McGill. Et mon laboratoire de recherche est à l'Hôpital juif de réadaptation, 6 Laval.
Et donc, le CRIR, en fait, comme on va l'appeler pour les prochaines minutes, ça regroupe plusieurs disciplines, en fait. Ça couvre vraiment une panoplie de disciplines.
Ça regroupe à peu près 15 différentes disciplines. Je vous donne juste à titre d'exemple. Bon, la physiothérapie, ergothérapie, psychologie, éducation, psychiatrie,
aménagement,
linguistique, neurolinguistique, exercice, kinésiologie, et on peut continuer. C'est la nature de la réadaptation qui demande l'implication de plusieurs disciplines pour traiter autant de problèmes physiques que fonctionnels, autant du côté biomédical et psychosocial de la personne en réadaptation et de son entourage.
Depuis quand le CRIR a débuté ses activités?
Nous avons été créés en 2000. Et c'était, comme vous venez de mentionner, c'est le Fonds Recherche Québec Santé. Mais nous avons un cofinancement par le Fonds Recherche Québec Société Culture. Et il y a aussi, on a eu aussi un petit financement du ministère en santé et des services sociaux. Alors, nous existons depuis, c'est notre 16e année d'existence et nous sommes en train de préparer notre plan de renouvellement, le plan de développement pour le renouvellement du CRIR pour encore 4 ans.
Génial. Et justement, bon, on vient de décrire un peu ce que c'est, on vient de décrire vos expertises, mais quelle est la mission du CRIR exactement, ce regroupement-là, cette dédication, si on veut, à la recherche, à l'innovation, c'est dans quel objectif?
Alors, vous pouvez trouver ça aussi sur notre site web www.crir.ca. Alors, la mission du CRIR est de contribuer à l'autonomie et à l'intégration sociale des personnes ayant une déficience physique par la recherche fondamentale, clinique, épidémiologique, évaluative et appliquée dans les domaines biomédical et psychosocial sur tous les aspects du processus de production du handicap.
Donc, on parle vraiment, OK, de processus de production du handicap. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour définir ce à quoi on fait référence avec ces termes.
Alors, peut-être on pourrait prendre un cas très, très spécifique.
Tout à fait, oui.
Alors, Monsieur X a un accident cérébrovasculaire et il passe d'abord par les soins première ligne et suite à ça, il continue en deuxième ligne, ce qui est la réadaptation. Alors, il est reçu en réadaptation et dès qu'il entre en réadaptation, et son handicap a déjà commencé, et ça pourrait comprendre limitation de mobilité, des langages de communication, cognition, toute une panoplie des limitations qui sont des séquelles qui accompagnent un accident cérébrovasculaire. Alors, en réadaptation, il pourrait recevoir des traitements de physiothérapie, ergothérapie, psychologie, orthophonie. Mais à part tout ça, il y a aussi sa participation dans la vie quotidienne éventuelle, son réintégration en communauté. Alors, on commence en première ligne, on continue en réadaptation et après, le but de la réadaptation, c'est d'amener la personne à participer dans la communauté.
Puis nos chercheurs travaillent sur différents aspects des soins, des interventions. Ils essaient de trouver les interventions qui sont les plus efficaces. À titre d'exemple, on a des chercheurs qui ont une expertise dans la réalité virtuelle. Mm-hmm. Alors, ils essaient de voir si la réalité virtuelle peut aider à mieux préparer les gens quand ils quittent le centre de réadaptation, lorsqu'ils retournent dans le centre commercial, par exemple. Alors, on a ce genre de projet-là. Il y a d'autres interventions qui sont étudiées, qui vont vraiment toucher le traitement du cerveau ou les activités cognitives. C'est ça, ils sont basés sur toutes les interventions en réadaptation pour voir le moment propice pour les données, en quoi il devrait consister, à quel moment, pour que la personne ait une meilleure qualité de vie dans la communauté après la réadaptation.
Alors, nos axes de recherche, justement, pour traiter de tout le processus, ça commence notre premier axe regarde les fonctions et activités sensorielles, motrices et cognitives. Alors, on étudie les mécanismes fonctionnels et aussi les activités physiques et cognitives. Et notre deuxième axe, c'est participation, inclusion sociale et services de réadaptation. Alors là, on traite de relations interpersonnelles et soutien, domaine de vie, vie communautaire, sociale et civique, mais aussi des services, des systèmes politiques. Mm-hmm. Alors, ça comprend tout ce qui entoure la personne, son entourage et la réadaptation.
Bien sûr, on sort de seulement les murs, en fait, traditionnels d'un centre de réadaptation ou des interventions cliniques mm-hmm. ou post-opératoires ou hospitalières, lorsque c'est le cas. Vous portez donc vraiment sur l'avenir, en fait, de la réadaptation, le après. Que se passe-t-il justement dans la vie quotidienne, dans la vie en société? Comment est-ce que vos recherches se manifestent sur ce terrain-là? Si on a évoqué très brièvement la question d'un centre commercial, par exemple. Comment ça se manifeste?
Ouais. Mais depuis 2011, on travaille avec un partenaire... d'entreprise Commoner Ride, qui est le propriétaire de l'Access Neon, où pendant 4 ans, c'est notre terrain de jeu. On est allé, les chercheurs, les étudiants, avec nos partenaires locaux, nationaux et internationaux, faire de la recherche à l'intérieur des murs du centre commercial. Justement, ça peut être au niveau d'un fauteuil roulant intelligent pour voir comment la personne peut se rendre de point A à point B, comment quelqu'un avec des troubles cognitifs pourrait se rendre, faire des commissions à l'intérieur d'un mm-hmm. centre commercial. Et alors, ça touche la recherche, touche tout ce que Eva a mentionné tantôt, mais soit pour préparer la personne à se déplacer dans un centre commercial pour pouvoir y aller, mais aussi on fait de la recherche qui rend l'environnement plus accessible sur le plan physique et social. Alors, c'est pas juste l'accessibilité physique, excusez-moi, mais aussi l'accueil. On a de la recherche qui touche la formation des gens pour mieux sensibiliser les personnes qui travaillent dans ces commerces-là par rapport aux besoins des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles.
Mm-hmm. Et justement, pour réussir ce genre de laboratoire, si on veut, vous avez aussi beaucoup de partenaires. Vous travaillez avec des universités, d'autres centres de recherche. Est-ce que par vos projets, vous amenez aussi une certaine sensibilisation chez ces professionnels, chez ces chercheurs?
Oui, je pense que le meilleur exemple, c'est qu'on a commencé il y a 4 ans, en 2011, avec Common R. On est dans 2016 et l'attitude de ce partenaire a changé. Ils ont ouvert leur mur. On a une journée scientifique, une porte ouverte, durant laquelle on a fait la vitrine de toutes nos réalisations dans le cadre de ce projet Rehabment en novembre dernier. Mais maintenant, Access Neon veut ouvrir ses portes pour les athlètes paralympiques. Ils mm-hmm. veulent qu'il y ait des kiosques qui touchent la recherche pour sensibiliser davantage les personnes, pas juste qui travaillent dans le centre commercial, puis mm-hmm. tout le grand public. Alors, puis même quelque chose à souligner qui a vraiment changé de quoi, c'est que Common R a reçu en octobre 2015 le prix argent dans la catégorie rénovation et expansion de International Council of Shopping Centers pour leur volonté de rendre l'environnement du centre commercial plus accessible et grâce à leur partenariat avec le CRIR.
Donc, on voit vraiment des applications, on voit vraiment qu'il y a des changements aussi dans non seulement les infrastructures, mais dans les mentalités, dans les attitudes aussi.
Et je dirais aussi qu'il y a un changement au niveau de nos collègues, au niveau des étudiants, la façon dans laquelle ils sont entraînés, mais la façon dans laquelle ils perçoivent la nouvelle façon de voir la réadaptation. Alors, et ça, c'est très, très, très important parce que ce sont eux la relève en clinique.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, quelle est cette nouvelle vision, justement, de la réadaptation? Quelle est cette nouvelle vision du handicap?
C'est la nouvelle façon, c'est une extension de ce qui se faisait déjà. Ce n'est pas comme si ça ne se faisait pas du tout. Mais c'est la réadaptation en dehors de murs de centres de réadaptation et plutôt dans la communauté. Alors, ça se faisait mm-hmm. jusqu'à un point, mais en ce moment, autant les traitements en réadaptation que le lieu de réadaptation sont en dehors de murs. Ils peuvent être en dehors de murs et on s'aperçoit que si elles vont être efficaces, elles doivent quand même sortir de murs de réadaptation.
Tout à fait.
Mais justement, la recherche essaie de voir comment on peut mieux entraîner quelqu'un en fauteuil roulant, par exemple, à l'intérieur des murs des hôpitaux, les établissements de réadaptation, pour pouvoir avoir un meilleur fonctionnement à l'extérieur. Parce qu'il y a quand même, on a appris qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui restent isolées après la fin de leur réadaptation. Mm-hmm. Et c'est ça, notre recherche va... On veut se pencher sur cette question-là, voir comment on peut être innovateur dans la recherche des solutions pour changer ça finalement.
Pour briser l'isolement.
C'est ça.
C'est ça. Et est-ce qu'on peut penser justement que des technologies comme Internet pourraient aussi permettre à plus de gens de faire une plus grande partie de leur réadaptation dans leur milieu? On sait qu'il y en a qui doivent parfois justement partir de leur milieu où ils habitent, donc de partir d'une région, de venir dans un grand centre, d'être hébergé dans un grand centre parfois et de rester dans ces murs. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des différentes technologies qui vont pouvoir contribuer à ça dans les prochaines années?
Mais je pense immédiatement, il y a quand même des chercheurs du CRIR qui ont une expertise dans la téléréadaptation. Aussi, même avec qui touche le jeu et comment on peut donner une intervention à un patient, il se rend chez lui, il fait sa réadaptation, puis il y a un suivi qui se fait par Skype ou par d'autres moyens pour éviter les déplacements. J'avais un autre. Oh oui, puis il y a un autre chercheur qui travaille sur un genre de suivi activé par un voix. La personne, il y a un suivi par téléphone qui est fait au niveau de la satisfaction puis l'utilisation des aides techniques. Alors, nos chercheurs travaillent un petit peu sur ce type de technologie aussi.
Vous êtes concentré à Montréal, mais est-ce qu'il y a différentes de vos activités qui se retrouvent dans d'autres régions du Québec ou même ailleurs au Canada?
Mais nous avons... À part les membres du CRIR, qui sont les milieux de réadaptation dans la grande région montréalaise, il y a aussi, nous avons deux partenaires régionaux dans le Laurentide et à la Naudière, et aussi en Estrie. Alors, nous avons des collaborations aussi, en Estrie particulièrement, avec des chercheurs qui sont à l'Université de Sherbrooke et des cliniciens qui se trouvent dans le milieu de réadaptation en Estrie. Alors, nous avons aussi des chercheurs qui sont à Trois-Rivières et à l'UQTR, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et ces chercheurs ont des collaborations dans leur milieu régional.
Mm-hmm. Donc, vous suivez un peu les pôles de recherche, finalement, dans les différentes régions. En terminant, mesdames, quel projet démarre bientôt ou peut-être en continuation? Ou CRIR?
Mais il y a peut-être deux projets. Je peux parler de comment on va utiliser, si tout va bien, si on obtient la subvention, continuer dans le centre commercial, de voir quels sont les paramètres qui rendent une personne, suite à un AVC ou un traumatisme crânien, capable de bien fonctionner à l'intérieur d'un centre commercial. Ça, c'est un projet. Puis l'autre projet,
grand projet intersectoriel qui va couvrir la province du Québec. Qui se fera en collaboration entre le CRIR, le CIRIS de Québec, le réseau REPAR, en adaptation-réadaptation, et aussi le groupe Inter. Alors, c'est un projet qui sera financé par les trois fonds Recherche Québec, alors Santé, Société, Culture et Nature Technologie. Et nous sommes en train de préparer le document que nous allons soumettre au FRQ en espérant un financement qui va nous amener à faire de la recherche, à travailler avec non seulement les milieux universitaires ou cliniques, mais particulièrement avec nos partenaires en milieu communautaire.
Pour avoir une société inclusive, c'est ça le nom du projet, ça c'est le gros projet qui va... C'est ça, on va aller plus loin que juste en dehors des murs de réadap, en dehors des murs d'un centre commercial, vraiment aller au niveau de la société québécoise.
Merci beaucoup. Vraiment, on va suivre ça avec, avec intérêt dans les prochaines années. Évidemment, ça se passe quand même sur le moyen terme, le long terme, ce type de projet de recherche, de laboratoire vivant. Merci beaucoup, mesdames, Dr. Bonnie Swain et Dr. Eva Kehaya.
Merci de nous accueillir.
D'avoir été avec nous aujourd'hui. On va mettre le lien vers le CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. On va mettre le lien sur la page de l'émission. Merci encore et bonne recherche.
Merci.
Merci beaucoup.
Mettre de l'avant le sport adapté, faire valoir le potentiel des athlètes québécois et canadiens ayant une limitation fonctionnelle, mais surtout changer les mentalités. C'est la vision du défi sportif Altergo qui s'est conclu hier, le 1er mai. On fait un bilan de cette 33e édition avec M. Maxime Gagnon, directeur du défi sportif Altergo. Bonjour M. Gagnon.
Bonjour, bon après-midi.
Comment on se sent comme directeur du défi sportif en ce lundi?
Un peu fatigué, mais très fier. Très fier de ce qui a été accompli tant par les athlètes, les bénévoles, que l'équipe qui est derrière moi.
Et c'est une grosse organisation, le défi. On parle de 5000 athlètes qui étaient là cette année, quelques 1200 bénévoles, dont il y a aussi 4000 jeunes de tous ces athlètes en provenance de plusieurs écoles au Québec, plusieurs centres de réadaptation. C'est tout de même une machine qui est bien huilée.
Pour sa 33e édition, oui, je vous dirais qu'on s'améliore d'année en année et on veut toujours donner un meilleur service tant aux athlètes, tant aux bénévoles, tant aux médias. Pour essayer de donner la meilleure image positive de notre événement et de démontrer celle des athlètes aussi en même temps.
Quels ont été les moments forts de cette dernière édition?
Il y en a eu plusieurs. C'est sûr que les journées où les jeunes sont présents au défi sportif et de voir la relève de demain qui est présente comme ça pendant 5 jours, c'est très, très... C'est incroyable ce qu'on peut voir à chacun des matins. Par la suite, c'est sûr qu'on a eu une grosse compétition de boccia qui est pour les athlètes qui ont la paralysie cérébrale ou la dystrophie musculaire. Il y avait 15 pays présents. Alors, ça faisait partie des derniers tournois avant Rio. Alors, c'est sûr que c'est un gros moment fort aussi. On a eu la belle température sur le circuit Gilles-Villeneuve samedi pour les courses de vélo, athlétisme. Alors, ça, c'était très bien aussi. Le tournoi de basketball cette année, c'était plus d'une vingtaine d'équipes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'équipes pour le tournoi de basketball à fauteuil roulant. Et bien sûr, notre super finale de dimanche, où il y avait plus de 400 personnes présentes à l'Arena Wimorens, c'était un moment très fort de la semaine, celui-là aussi.
Et donc, c'est le final, en fait, qui était la finale de hockey sur luge, qui concluait la série opposant le Canada et les États-Unis.
C'est exact. C'était une série de 3 matchs qui étaient organisés. Ce sont les équipes B du Canada et des États-Unis qui se rencontraient pour une première fois suite à une reconstruction du programme, autant du côté canadien qu'américain. Et malheureusement, le Canada a perdu les 2 derniers matchs. Elle avait gagné, très bien sorti le premier match. Malheureusement, a perdu le dernier match, ce qui fait que les Américains sont repartis avec la coupe. Mais les deux pays, les deux nations nous ont mentionné qu'elles aimeraient être de retour l'an prochain dans la programmation du défi sportif pour un autre tournoi de ce genre.
Et c'est un événement particulier pour vous qui êtes entraîneur de l'équipe du Québec?
C'est sûr que ça fait chaud au cœur. Écoutez, j'ai eu même la chance de travailler depuis les derniers mois avec Hockey Canada. Je travaille maintenant avec l'équipe B. Et si je n'avais pas travaillé, j'aurais été derrière le banc. C'est sûr que de voir ce match-là hier, j'avais des fourmis dans les jambes. Mais de voir des joueurs auxquels qui ont passé au travers du processus québécois. Francis Lacombe, qui est un jeune Montréalais qui a commencé à l'âge de 13 ans au hockey sur luge à Montréal. fait partie de l'équipe du Québec, fait maintenant partie de l'équipe nationale B. Alors, on voit que le hockey sur luge, par le fait même, va bien au Québec, vu des résultats comme celui-là.
Mm-hmm. C'était une première expérience, la vidéodescription de cette grande finale qui était offerte en collaboration avec le théâtre L'Envol et Ami Télé. Est-ce que c'est un partenariat qui va se reconduire?
Il le faut. Je crois qu'il faut être ouvert à ces services-là qui sont donnés à la clientèle qu'on dessert. Alors, on a eu beaucoup de commentaires positifs. C'est sûr que les deux animateurs qui ont débuté vendredi étaient un petit peu pas tout à fait à l'aise avec ce genre de description-là où on leur demandait de faire un petit peu plus de détails. Mais samedi, on avait déjà de très bons commentaires et dimanche, ça allait très bien. La plupart des gens qui étaient dans l'aréna et qui utilisaient ce service ont grandement apprécié.
Est-ce que ça pourrait être envisagé d'étendre ce service de vidéodescription à d'autres compétitions?
Définitivement. C'est sûr que où on a le bassin pour ça, on a les services à l'offrir, c'est sûr qu'on peut le faire. On peut le faire à ce moment-là avec le goalball, qu'on n'avait pas malheureusement cette année, déjà un manque d'inscription. On avait aussi le vélo tandem où on pourrait l'offrir l'an prochain. Alors, il y a plusieurs choses comme ça là, qui sont intéressantes dans l'avenir pour la vidéo, pour l'audio descriptif.
Mm-hmm. Il y avait aussi, si on veut, une athlète paralympique recherché qui a été présent une journée durant la semaine au défi. Est-ce que justement ce défi sportif avait une couleur différente du fait que les Jeux paralympiques de Rio en septembre, ça s'en vient. Là. Il y a une effervescence déjà qui se sent.
Définitivement, on avait eu la présence de Chantal Petitclerc, qui est une de nos deux porte-parole avec Jean-Marie Lapointe dans le cadre de l'événement. Elle était venue mardi présenter la tournée du Comité paralympique canadien qui se fait dans chacune des villes canadiennes. De là, ça donnait déjà une couleur. Et le fait que l'équipe du Comité paralympique canadien vienne samedi faire paralympiens recherchés. Et ce qui était merveilleux, c'était de voir tous ces entraîneurs nationaux qui étaient présents pour voir nos athlètes, mais qui n'étaient pas au courant eux-mêmes qu'on avait plus de 4000 athlètes qui étaient passés dans la semaine et de leur dire, écoutez, l'année prochaine, voici les dates. Et on s'est permis de leur donner les dates jusqu'en 2022. Et eux vont le mettre dans leur calendrier maintenant et ils vont venir faire carrément du recrutement tout au long de la semaine auprès des jeunes qui sont présents pour les défis sportifs.
En terminant, M. Gagnon, lendemain de cette 33e édition, on se retrousse les manches et on s'attelle déjà à la 34e?
Définitivement, on a déjà eu des approches avec Curling Canada pour revoir le championnat de curling en fauteuil roulant l'an prochain. On a des nouveaux sports qu'on devrait avoir dans la programmation, la dynamophilie, pour les gens qui font du bench press, communément appelé. Alors, ce sont des compétitions sur lesquelles on regarde. Et on est déjà en 2018. On a une fédération internationale qui vient nous visiter pour nous offrir un programme pour 2018. On peut en parler pour l'instant, mais on a déjà des projets jusqu'en 2018. Donc, on n'arrête pas. On est accro du sport pour personnes handicapées. Et enfin, la promotion, on aime bien ça. Et de voir les athlètes se dépasser comme ça, ben, ça nous stimule de jour en jour.
Merci beaucoup, M. Gagnon, directeur du Défi sportif Altergo. Félicitations pour le succès de cette 33e édition.
Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clic CVLD ou @canal_m sur Twitter. Et j'en parlais brièvement en début d'émission de l'employabilité, en fait, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Seule une personne sur quatre ayant un de ces troubles possède un emploi rémunéré. Et quand on pense que la sphère du travail est essentielle à l'épanouissement. C'est une statistique qui est importante à tenir compte et surtout à travailler pour changer. J'accueille dans les studios Mme Amélie Durand-Lot, coordonnatrice provinciale pour le programme Prêt, disponible et capable et le volet déficience intellectuelle. Bonjour, Mme Durand-Lot.
Oui, bonjour, Mme Prud'homme.
C'est Despomerleau. Despomerleau,
désolé, ça commence bien.
Il y a un P dedans. Il y a un P, il y a des O, il y a des M, ça marche. Qu'est-ce que On va y aller. Je rappelle à nos auditeurs que le 26 avril dernier, on a parlé davantage du volet autisme avec Emmanuelle Ladouceur, qui était coordonnatrice provinciale du volet autisme. Aujourd'hui, on se penche davantage sur le volet déficience intellectuelle. Mais d'abord, je vous invite à nous représenter ce programme prêt, disponible et capable.
Parfait. Bien, vous l'avez dit d'entrée de jeu, vous avez très bien expliqué qu'une personne sur quatre occupe un emploi, des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Si on le met en perspective, chez l'ensemble de la population, le taux d'emploi est d'à peu près de 66 %. Donc, le clivage est quand même assez élevé. Vous savez, avec le vieillissement de la population, les employeurs doivent se tourner vers d'autres bassins d'employeurs, d'employés, de travailleurs. Donc, le recrutement fait vraiment partie des enjeux pour les entreprises pour trouver une main-d'œuvre qui est talentueuse. Donc, c'est dans cette dynamisme-là, vraiment entre besoin d'employeurs et des chercheurs d'emploi qui avaient de la difficulté à accéder à certains emplois, qui a été mis sur pied en octobre 2014, le programme Prêt disponible et capable. Donc, ça vise réellement à favoriser l'intégration en emploi régulier. Donc, quand nous, on parle d'emploi régulier, c'est un emploi sans subvention salariale des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Ma collègue Emmanuelle Ladouceur est venue vous parler de ce volet-là. Donc, on travaille en concertation avec plusieurs partenaires du monde du travail. Donc, il y a les employeurs, il y a les organismes d'employabilité qui, eux, vont vraiment accompagner les chercheurs d'emploi. Et nous, à la CIS, au Centre Gaulle pour le volet TSA, avec la Fédération québécoise de l'autisme aussi, pour justement faire le pont entre les employeurs et les candidats potentiellement intéressés à occuper ces emplois-là.
Justement, il y a un besoin de créer ces ponts. On se rend compte que chacun est un peu sur sa propre rive et on doit créer des ponts pour permettre en fait une meilleure inclusion dans l'emploi.
Oui, bien, vous l'avez dit d'entrée de jeu, une personne sur quatre occupe un emploi. Donc, il y a de mes connaissances. Les employeurs, souvent, ont le désir d'embaucher, mais ne connaissent pas vraiment comment avoir accès à ces candidats-là. Souvent aussi, quand c'est nouveau, ce type d'embauche-là, quoique ça existe depuis très longtemps au Québec, mais quand on parle d'une embauche inclusive sans subvention salariale, ça peut être un mécanisme qui est assez récent. Donc, ils ont besoin d'avoir un soutien aussi pour pouvoir s'investir dans notre programme. Donc, les organismes partenaires offrent avec nous aussi également ce soutien-là qui peut faire la différence pour susciter leur désir d'embaucher. Donc, c'est vraiment dans nos objectifs du programme. On veut mobiliser, sensibiliser les employeurs aux avantages intégrer une personne qui a une déficience intellectuelle. Ça fait partie d'un des objectifs, tout en renforçant le pont aussi entre le désir d'embaucher et de toucher les personnes via les organismes d'employabilité.
Mm-hmm. Justement, quels sont ces avantages pour un employeur d'embaucher un travailleur vivant avec une déficience intellectuelle?
Bien, il y a vraiment plusieurs avantages. Je vous dirais qu'ils sont variés d'un milieu de travail à l'autre. C'est toujours très différent. Quand on sonde les employeurs, on va nous dire différents aspects d'un milieu à l'autre. Donc, pour certaines entreprises, on va jusqu'à même nous parler de haut niveau de productivité parce qu'on a pris la peine de faciliter la transition vers cet emploi-là régulier. Il y a l'aspect de la fiabilité aussi, je vous dirais, de l'engagement au travail. Mm-hmm. Je vous dirais l'engagement pour la personne, mais pour les collègues de travail aussi, qui sont autour de la personne. Donc, ça crée un très fort sentiment d'appartenance. La motivation, donc la motivation venant de la personne, mais venant aussi de ses collègues de travail qui ont vu que leur employeur a décidé d'embaucher inclusivement. Donc, c'est très, très valorisant. Je vous dirais que d'autres employeurs, par exemple, ils vont nous parler d'assiduité au travail. Donc, c'est parmi des exemples aussi qui sont souvent ressortis.
Est-ce qu'il y a certains types d'entreprises qui sont plus ouvertes ou est-ce qu'il y a des types d'emplois qui conviennent mieux parfois à des personnes avec une déficience intellectuelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez dans vos démarches?
Bien là, vous me posez une question où je dois répondre avec une généralité, puis il faut toujours faire attention à ces généralités-là. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment un type de poste, mais je pourrais vous répondre par des conditions favorables. Mm-hmm. Jusqu'à présent, pour vous donner une idée un peu plus précise de ce qui s'est fait en termes d'embauche à l'intérieur du programme, on peut parler de postes de commis, de journalier, également à l'entretien ménager. Ça peut être à l'assemblage, à la production, dans tous les secteurs d'activité. Et dans les conditions, bien, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait l'ouverture du syndicat, s'il y a un syndicat présent dans le milieu du travail pour l'implantation d'un programme comme le nôtre. Je pourrais vous dire aussi, il faut vraiment que le superviseur immédiat de la personne soit vraiment... motivé à s'impliquer dans le programme parce que son superviseur, son patron, mm-hmm. Il faut réellement qu'elle puisse soutenir la démarche. Là, si elle n'est pas à l'aise à encadrer la personne, c'est sûr que ça peut être voué à l'échec.
Tout à fait. Et justement, on parle de ce programme prêt, disponible et capable. Combien de temps ça dure? Quelles sont les conditions particulières à ce programme d'employabilité?
Bien, lorsque la personne elle est en emploi, elle peut être en emploi toute sa vie. Le programme existe pour une durée de 3 ans. C'est un projet pilote qui a commencé en octobre 2014 qui va probablement être conduit pour une autre période. Mais je vous dirais, le programme actuellement finirait en décembre 2018, mais même un mois à l'avance, si un employeur désire embaucher, il peut nous appeler. On va faire la passerelle parce qu'avec les organismes d'employabilité, leur service est à vie. Donc, si l'employeur a besoin d'un soutien, il va pouvoir toujours... se diriger vers l'organisme parce que nous, on va avoir fait le pont.
Comment se passe justement la construction de ce pont ou si on peut dire un mariage entre les employés et les employeurs?
Nous, à la CIS, on sensibilise vraiment les milieux de travail. Donc, on va les contacter de différentes façons. On va regarder souvent des entreprises là où il y a un haut taux de roulement de personnel parce que le roulement, c'est très, très coûteux pour une entreprise. On a évalué que c'est à peu près 3 000 $ pour une personne à remplacer, ce qui coûte à l'employeur, pour le salaire minimum. Donc, c'est encore plus lorsqu'on va dans des emplois qui sont mieux rémunérés. Donc, on va vraiment évaluer le milieu de travail, on va évaluer les besoins de l'employeur, on va discuter avec lui, on lui présente les grandes lignes du programme. Donc, il faut qu'il soit intéressé à embaucher... en haut de 15 heures et plus. Ça peut être un emploi saisonnier, ça peut être un emploi qui est permanent. Il faut que ça respecte les normes du travail, les mêmes avantages que tous les autres personnes, donc qu'ils soient intéressés à embaucher sans subvention salariale. Et ensuite, on évalue le poste, on identifie les tâches avec lui. On veut vraiment répondre à ses besoins. Et lorsqu'on on va avoir fait ces étapes-là, bien là, on dirige les offres d'emploi aux organismes spécialisés d'emploi qui vont aller chercher des candidats compétents dans leur bassin et ils vont les référer aux employeurs.
Mm-hmm. Donc, ça fonctionne un peu comme un babillard, si on veut, à ce moment-là, lorsque vous avez répertorié ce qui était disponible, ce qui était intéressant aussi sur le marché du travail. Vous acheminez ces demandes-là, ces postes-là, et là, après, c'est les organismes qui vont se retrouver à servir de référence, finalement.
Oui, tout à fait. L'avantage, ils vont présélectionner les candidats pour les milieux d'entreprise, donc c'est avantageux. Souvent, c'est fait assez rapidement. Ça évite aux employeurs, ceux qui désirent pas aller sur des babillards, justement, de pouvoir accéder rapidement à des candidats qui sont prêts, disponibles et capables. Donc oui, c'est sur on transfère les offres d'emploi, mais toujours en dialogue avec les organismes d'employabilité pour s'assurer qu'il y ait le meilleur mariage possible.
Justement, et donc ça permet que ça soit disponible dans plusieurs régions. On parle pas, on est situé à Montréal, mais ce n'est pas seulement à Montréal où est-ce qu'on peut faire ce type de mariage employé-employeur.
Oui, on est présent dans 20 régions du Canada. Dans la province du Québec, on est principalement présent dans Montréal et le Grand Montréal. Donc, on est présent en Montérégie, à Laval, dans Lanaudière, à Québec aussi et sur les différentes rives pour pouvoir être contacté. Mais on se déplace également dans différentes régions aussi.
C'était, en anglais, ça s'appelle Ready, Willing, Able. Est-ce que c'était un programme qui existait déjà au Canada anglophone avant et donc depuis 2014, il y a ce penchant francophone?
Non, ça s'est implanté au même moment. Seulement quelques mois avant, il y a eu un projet pilote en Ontario pour démontrer que c'est chose possible aussi d'embaucher une personne qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme à plein salaire. Ça a débuté avec un de nos employeurs nationaux, Costco, qui est aussi un employeur provincial dans la province du Québec, qui s'est très bien investi dans le programme depuis le début. Donc, on a pu voir que c'est possible. Des gens qui sont entrés chez Costco en emploi saisonnier, finalement, ont eu leur permanence et vraiment s'intègrent très bien dans les équipes de travail, tout en répondant aux exigences de l'employeur.
En terminant, Mme Durand-Loup, si on veut avoir plus d'informations, quel site est-ce qu'on doit visiter?
Oui, bien, c'est en anglais, donc fr.readywillingable.ca. Sinon, vous pouvez me contacter également 514-725-7245, poste 31.
Merci beaucoup. Amélie Durand-Loup, vous êtes coordonnatrice provinciale pour le programme Prêt, disponible et capable, volet déficience intellectuelle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Parfait. Merci de m'avoir reçue.
Fanny Bloom, une pièce que j'adore, danse, tirée de son album Pan, une parution de 2014. 29 avril dernier, c'était la Journée internationale de la danse et à Canal M, on pense que tous les jours, c'est un jour pour danser. Et notre prochaine invitée adhère certainement à cette philosophie. Passionnée de la danse, elle travaille depuis plus de 10 ans avec des danseurs atypiques. Je la joins au téléphone, Madame Maïwenn Desbois, chorégraphe. Bonjour, Madame Desbois.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien vous-même.
Oui, ça va bien, merci.
D'abord, quand et comment le goût de travailler avec des artistes atypiques est arrivé dans votre carrière de danseuse et chorégraphe?
Ben, en fait, c'est comme un choix qui s'est imposé naturellement, si je peux dire, parce que durant toute ma vie, toute petite, j'ai toujours été en contact avec des gens différents, des gens marginaux, des gens qui vivaient avec un handicap ou un syndrome. Ma mère, elle est éducatrice spécialisée, donc j'ai toujours côtoyé des gens différents. Et parallèlement à ça, je poursuivais ma carrière en danse. Et un jour, je me suis trouvée à être invitée à joindre le corps enseignant du Centre des arts de la scène Les Muses, qui est un centre de formation professionnelle pour les artistes atypiques, des artistes qui vivent avec un handicap intellectuel ou un handicap social. Et ben là, c'est comme si naturellement, et la danse, et le fait d'avoir côtoyé des gens différents toute ma vie, c'est comme si ça se rencontrait à travers les muses. Puis là, j'ai eu la piqûre pour de bon.
Et vous travaillez donc avec des artistes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme?
Oui, exact.
Et est-ce que ces danseurs ont tous passé par l'école Les Muses?
Oui, tous mes interprètes, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Puis ce qui est bien, c'est que comme je leur enseigne la danse, là, je partage un poste d'enseignement en danse et je les vois évoluer, je les vois, j'arrive à voir. Premièrement, quand je choisis de travailler avec un interprète, c'est souvent un coup de foudre. Là, je vois quelque chose en eux qui m'allume, puis je me dis, je vois le potentiel qu'ils pourraient avoir en les amenant sur scène. Et ça me permet aussi de parfois tester des choses ou observer quels seraient les défis potentiels, c'est quoi les forces. Donc oui, les trois interprètes avec qui je travaille, ils sont tous passés et ils sont toujours élèves au Muses.
Mm-hmm. Justement, vos danseurs coup de cœur, vous avez un noyau de danseurs, un noyau d'interprètes dans votre compagnie, Maïwenn et les Orteils. Pouvez-vous nous les présenter?
Oui, certainement. En fait, moi, j'ai commencé par travailler avec Anthony Dolbecq, qui, lui, a le syndrome d'Asperger. C'est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle. Donc, ses difficultés, c'est vraiment au niveau social, c'est pas au niveau intellectuel. Et au niveau moteur, Anthony... C'est un super bel interprète, là. Beaucoup, beaucoup de facilité, beaucoup d'aisance dans son corps, au niveau de la coordination, de la souplesse, l'intégration aussi des consignes, puis une grande facilité à mémoriser les séquences de mouvement, mais aussi un interprète là extrêmement riche, sensible, très généreux, une super belle présence sur scène. Alors, j'ai commencé par travailler avec lui en 2008. Un petit peu avant. Et c'est ça, on a bâti un premier duo, tous les deux. C'est comme ça que ça a commencé, en fait, l'histoire de Maïwenn et les Orteils. Et ensuite, ça faisait longtemps là, que j'avais un œil sur Gabrielle Marion Rivard. Je trouve que c'est vraiment une interprète magnifique, là, extrêmement lumineuse, très, très généreuse. Puis j'ai commencé à travailler avec elle en 2010. Je l'ai intégrée à la compagnie, puis on a bâti un trio avec Anthony, elle et moi, parce que je danse toujours avec mes danseurs, avec mes interprètes. Enfin, jusqu'à maintenant, là. Dans l'avenir, je ne sais pas, mais jusqu'à maintenant, dans toutes mes créations, j'ai envie de partager la scène avec eux. Et plus récemment, j'ai intégré une quatrième interprète, qui s'appelle Roxane Charret-Landry. qui, elle, a le syndrome X fragile. Elle a une légère déficience intellectuelle. Ses difficultés sont surtout au niveau de la gestion des émotions, gestion de l'anxiété. Mais Roxane aussi, une couleur complètement différente d'Anthony, de Gabriel, mais belle intensité, une grande, grande générosité, beaucoup de charisme sur scène, une belle présence. Et donc, elle a fait partie là, de la dernière création qu'on a présentée, en fait, en mars dernier, pendant la semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
Mm-hmm. Oui, qui était avec Pas de cœur, qui était présentée en collaboration avec Tangente. Maïwenn Desbois, vous ne faites pas seulement engager des danseurs différents. Vos œuvres sont conçues pour eux et parlent d'eux.
Oui. Ah, oui. C'est sûr que mon moteur, mon inspiration première, c'est vraiment leur vécu, puis beaucoup de parallèles que je fais entre leur vécu et le mien. Parce que c'est un peu ça aussi le slogan là, de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, c'est regarde comment on se ressemble finalement. Au lieu de chercher les différences, au lieu de toujours pointer du doigt ce qui nous différencie, ben allons donc voir qu'est-ce qui nous rassemble, puis de quelle façon on se ressemble. Puis on a pas mal plus de points en commun que ce qu'on peut penser. Donc ça, c'est mon moteur. Puis on va creuser profondément là, dans les thématiques. C'est très, très, très intime. Pour moi, c'est important là, que ça parle de vraies affaires. Puis quand on est sur scène, ben moi, en tant que spectatrice, j'aime ça, retrouver sur scène de l'authenticité, puis de sentir que ce que je vois, le spectacle que je vois, ce qui m'est livré, c'est authentique, c'est vrai, c'est senti. Donc, c'est ce que je cherche à créer avec mes interprètes.
Comment se fait le processus de création? Est-ce que vous partez déjà d'un canevas que vous avez en tête? Vous travaillez beaucoup avec l'improvisation. Il faut le dire, je ne crois pas que je l'ai dit depuis le début de l'entrevue, mais c'est de la gigue contemporaine.
Oui, effectivement. Ça ajoute une particularité, ça ajoute un défi aussi. Donc oui, effectivement, c'est de la gigue contemporaine. Moi, j'en ai interprété pendant longtemps de la gigue. Donc quand je me suis mise à chorégraphier, c'était naturel pour moi de chorégraphier de la gigue contemporaine. La gigue, elle avait une place omniprésente dans mon langage chorégraphique. Et il se trouve qu'Anthony et Gabriel ont vraiment une grande, grande facilité à comprendre la musique, à comprendre le rythme. Pour Roxane, c'est un plus grand défi. Je dirais que dans la création d'Avec pas de cœur, en fait, il y a vraiment quatre niveaux de gigue. On a vraiment quatre niveaux de gigue différents, puis c'est correct, on travaille comme ça, puis on se complète, puis j'adapte les phrases rythmiques ou les phrases de gigue pour que tout le monde ait sa place. Et oui, je travaille presque exclusivement en improvisation, en fait. C'est rare que je vais avoir du temps toute seule, moi, en studio. Je préfère partir d'eux ou à la limite essayer directement avec eux en studio, mais travailler toute seule de mon côté, je trouve ça plus ou moins nourrissant. J'aime mieux être... il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Là. J'arrive avec un plan, j'arrive avec un canevas, j'arrive avec des idées, mais tout se concrétise, tout se fait là, avec eux.
Justement, est-ce qu'il y a des défis peut-être au niveau physique? Est-ce que l'endurance physique ou la mémoire corporelle, ça ajoute aux défis de création?
Oui, énormément, mais je prends soin je supporte beaucoup mes interprètes dans leur parcours, dans le sens où je m'assure qu'ils ont un entraînement adéquat, complémentaire à leur formation aux muses. Mm-hmm. Donc, par exemple, on s'entraîne les quatre ensemble dans un centre d'entraînement physique, là, cardio, musculation, en cours semi-privé. Donc, deux fois par semaine, ils ont un entraînement comme ça. Et à ça, pour la création d'Avec pas de cœur, j'ai ajouté, pas tout en même temps, là, mais par exemple, à l'automne dernier, on faisait du yoga. Cet hiver, on a fait des cours de pilates. Tout au long du processus, on a eu une entraîneur de gigue qui est venue nous coacher pour les pas de gigue. Et comme on chante dans la création Avec pas de cœur, on a eu deux coachs de chant qui nous ont suivis, qui nous ont aidés. Mais reste que, oui, c'est un enjeu au niveau de la mémorisation. Et encore une fois, Anthony a sa façon de mémoriser puis sa capacité différente de celle de Roxane, différente de celle de Gabriel. Et ça, je dois toujours en tenir compte. Si j'en tiens pas compte, je m'en rends compte assez vite, là.
ça va dans...
Des fois, c'est eux qui me ramènent les deux pieds sur terre, là. Puis...
vous devez adapter votre manière d'enseigner, finalement, la chorégraphie, oui. Vraiment, à vos interprètes. Ce sont des créations multidisciplinaires. En terminant, est-ce qu'il y a des représentations prochaine de vos projets? Cet hiver, vous étiez en tournée déjà. En fait, vous avez présenté trois spectacles différents cet hiver.
Oui.
Que se passe-t-il dans les prochains mois?
Bien, dans les prochains mois, en fait, ça va être l'accent va être mis sur la promotion du dernier spectacle avec Podcast, parce que c'est encore tout chaud, tout frais sorti du four. Alors, l'idée, c'est de faire la promotion pour que ce spectacle-là ait une durée de vie intéressante, comme les deux précédentes œuvres, Dans ta tête et Six pieds sur terre, qui on en est à plus d'une trentaine de représentations de ce spectacle-là qui regroupe ces deux chorégraphies-là, Dans ta tête et Six pieds sur terre. Et pour ce spectacle-là, on a encore d'autres représentations. On est super chanceux. Une belle tournée dans les maisons de la culture de Montréal, 9 maisons de la culture à l'hiver 2017. Donc, ça, c'est loin un peu, mais pour les prochains mois, on va travailler là, sur la promotion du plus récent spectacle qui est avec Podcast, puis on va se croiser les doigts là, pour que ça ait une belle durée de vie.
On vous souhaite vraiment un bon succès. Maïwenn Desbois, vous êtes danseuse et chorégraphe, directrice artistique de Maïwenn et les Orteils, gigueux, atypique et contemporain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup.
C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Je remercie tous mes invités de l'émission. Je remercie mon équipe technique, recherche et médias sociaux, Christiane Campagna, mise en onde Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.